Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne.
Une question, une observation, un peu une provocation, disons. Vous développez l'idée que la cybercriminalité entrave le développement africain. On peut aussi y voir une ressource complémentaire fondée sur, dans certains cas, la bêtise occidentale, une sorte finalement d'économie informelle virtuelle. Hein, quand on voit les mails qui passent du style « Je suis l'héritière de monsieur Intel qui m'a laissé X millions, envoyez-moi vos numéros de compte en banque pour que je puisse les faire virer sur un compte », ce ne sont pas des mails qui s'adressent aux populations africaines elles-mêmes. Donc là, et on voit se développer une quantité de, comme vous l'avez un petit peu évoqué, d'escroqueries de ce genre, ou d'escroqueries au mariage, de bons Européens ou de bons Français. Eh bien, on voit régulièrement des sommes pour faire venir telle ou telle personne ou pour aller dans ces pays-là et au dernier moment s'apercevoir que ça n'existe pas. Une petite réserve aussi peut-être sur l'influence de la cybercriminalité sur le développement africain. Quand vous prenez les exemples de la Côte d'Ivoire notamment, je pense que le manque d'attractivité de la Côte d'Ivoire en ce moment, et peut-être depuis un moment, est plus lié à la situation de crise à la fois économique et puis politique qu'au problème de sûreté en matière d'informatisation ou d'utilisation de l'informatique en Côte d'Ivoire. Mais c'était pour provoquer un petit peu.
Mais vous voulez répondre peut-être ?
Je peux répondre tout de suite ou on prend les questions et on répond? Oui, d'accord. Oui, effectivement, premièrement, les mails frauduleux concernant notamment les mariages fictifs et les héritages fictifs également sont envoyés visent tout du moins des citoyens aisés et plus particulièrement des citoyens qui sont établis dans les pays industrialisés. Ceci dit, il y a une forme de cybercriminalité qui affecte les populations pauvres et donc le développement des pays d'Afrique. C'est notamment l'usurpation de l'identité dans le cadre des transferts des migrants, hein, des transferts de fonds des migrants qui sont des éléments qui conditionnent la survie pour certaines de ces populations, hein, notamment pour les populations les plus précaires, hein, mais également on voit des micro-entrepreneurs qui sont spoliés par des fausses propositions de crédit et qui se voient notamment spoliés et volés par des activités criminelles de ce type-là. Effectivement, concernant l'attractivité, le fait que la cybercriminalité nuit à l'attractivité de certains pays, pour le cas de la Côte d'Ivoire, la cybercriminalité constitue un élément notamment nuisible, mais bien sûr n'est pas le seul. Hein. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui en pleine crise politique et économique. Et d'ailleurs, ça constitue pour nombre d'États de pays d'Afrique subsaharienne qui connaissent également des problèmes sur leur territoire, hein, c'est également un entrave à la lutte contre la cybercriminalité du fait qu'il y a des priorités qui sont également d'ordre national qui sont plus importantes que peut prétendre pour certains pays, en fonction du contexte, la lutte contre la cybercriminalité. Ceci dit, il y a d'autres pays également qui ont une image néfaste en termes d'investissement suite au taux de cybercriminalité important. C'est notamment le cas du Bénin et du Togo, et qui, eux, n'ont pas de conflit ethnique sur leur territoire.
Ouais. Je pourrais intervenir
sur les escroqueries. C'est une vision... on va dire un peu trop répandu peut-être. Le principe même de l'escroquerie, c'est que la personne est escroquée. Donc on a abusé d'une certaine faiblesse de sa part. Les faiblesses sont parfois ridicules, parfois liées à des menaces. on voit des escroqueries autour de menaces de publication d'images, etc., hein, d'images de la personne qui s'est dénudée. Il y a des gens qui sont tellement gentils qu'ils sont prêts à aider les autres et qui sont prêts à emprunter de l'argent. Et on voit des victimes qui empruntent des milliers d'euros alors qu'ils n'ont pas le moindre sou pour pouvoir aider d'autres personnes en Afrique ou dans d'autres régions. Donc très clairement, les gens qu'on rencontre, ils sont pas bêtes, ils se sont fait escroquer. Et donc on a utilisé de tout un tas de méthodes pour les convaincre de ça. Et ensuite, même si les gens sont bêtes, on est là pour les protéger aussi. Voilà. Ah oui, toujours. C'est toujours dans un autre pays, hein, c'est clair. Mais ça nuit nettement à l'image du pays. La Côte d'Ivoire est surtout connue en France pour ses escroqueries. Et comme la France est un des pays qui est capable d'apporter, par proximité historique, je pense, beaucoup à cette région-là, petit à petit, ça nuit beaucoup, je pense, à l'avenir économique, aux relations économiques entre la France et la Côte d'Ivoire, parce que beaucoup de gens ont une image négative, et je vous assure que ça se développe, alors qu'il y a 15 ans, ce n'était pas le cas.
Question. Oui, Paul Arnaud, je voulais savoir pourquoi vous n'avez pas parlé, notamment Madame le magistrat de Tracfine et Monsieur le lieutenant-colonel, je voudrais savoir pourquoi vous n'avez pas parlé de les abondements, les virements financiers en provenance de pays comme qui cachent souvent blanchiment de capitaux, mais direct, sans passer par des paris sur les jeux sportifs. Est-ce que les provenances directes dans les investissements, les provenances directes à partir de Macao, à partir de Terre de Feu, des Caïmans, de Trinidad, Tobago, est-ce que c'est des vigilances qui portent aussi sur les investissements? On a vu une période de surinvestissement actuellement. Est-ce que vous avez beaucoup de créneaux d'activité pour détecter ces sources au niveau des entreprises?
Alors, je n'ai pas parlé des virements directs, mais bien évidemment, tout ce qui est virement international est un facteur de perte de traçabilité potentielle et de complexification des enquêtes. Le dispositif de lutte anti-blanchiment repose sur la vigilance des professionnels. Et dans la vigilance des professionnels, il y a un certain nombre de critères, dont l'alerte quand l'argent provient d'un pays à fiscalité plus favorable ou d'un pays qu'on appelle non coopératif. Donc ces informations-là, en général, nous remontent sans grande difficulté. Toute la question après est de la travailler. Un certain nombre de pays sont finalement plus coopératifs qu'ils ne puissent y paraître. Par exemple, on cite souvent au judiciaire, moi j'ai fait de l'entraide jadis, les difficultés qu'on a avec Jersey et Guernesey. Il faut savoir qu'en matière financière, on n'a quasiment aucune difficulté à discuter avec eux pour avoir des informations. On a très peu de difficultés avec le Luxembourg, alors même qu'au judiciaire, ce n'est pas si simple que ça. Donc oui, on a des échanges et la dimension internationale, en particulier avec les pays dits à fiscalité souple, est tout à fait importante. Je voudrais dire que par rapport à l'entraide judiciaire ou à l'entraide policière, comme on est dans un secteur financier préventif d'une certaine manière, les pays sont plus sensibles à respecter les recommandations du GAFI, peut-être que dans d'autres secteurs, donc judiciaires et policiers, où on estime qu'on est chez soi et qu'on fait ce qu'on veut chez soi. Quand il s'agit de la crédibilité économique d'un pays, il a plus tendance à participer au jeu général, parfois avec hypocrisie, mais quand même. Donc par exemple, la Chine, Hong Kong et Macao font partie de ceux qui coopèrent finalement un peu plus financièrement que judiciairement ou policièrement.
Oui, mais je n'ai pas tout à fait terminé ma question, j'y reviens deux secondes. Est-ce que, là c'est vraiment provocateur, est-ce qu'il reste de l'argent? Est-ce que ce n'est pas complètement asséché? Tellement il y a eu d'investissements, tellement il y a dû certainement y avoir d'emprise, d'implication. Est-ce que les paradis fiscaux portent leur nom comme ils le portaient fièrement, déloyalement, comme ils le portaient il y a encore 20 ans? entends. Est-ce qu'il reste de l'argent, selon vous?
Les paradis fiscaux sont utiles aux pays occidentaux, notamment pour investir de l'argent qui ne leur coûte pas fiscalement, enfin aux opérateurs occidentaux, qui ne leur coûte pas fiscalement trop cher. Mais par définition, les gains qu'ils font là-bas, ils essaient de les utiliser dans nos pays à nous. Donc ce n'est, enfin, je parle sous contrôle du monde, mais enfin, ce n'est pas séché. En général, c'est des passages et l'argent finit par revenir chez nous, soit dans des beaux hôtels particuliers sur la Côte d'Azur, soit dans des sociétés efficaces. Et voilà. Non, on parle de circuit. Il n'y a rien qui disparaît. Un délinquant, et en particulier un blanchisseur, je vais presque dire qu'il fonctionne comme vous et moi. Il essaye de conserver son argent, voire de faire fructifier, et surtout d'utiliser, mais près de chez lui. Il ne va pas aller se mettre à Macao pour utiliser son argent. Donc ça va revenir. La difficulté, c'est d'établir l'origine criminelle de l'argent. Quand il y a eu 12 étapes avant, par des sociétés plus ou moins transparentes, dans des pays à fiscalité avantageuse comme dans d'autres pays, veut dire que l'argent qui arrive en France, puisqu'on est ce qu'on appelle terre d'intégration, nous, dans le blanchiment, on distingue trois étapes rapidement. Il y a l'argent, le placement initial, l'argent sale qui est utilisé tout de suite, les techniques d'empilage et l'intégration finale de l'argent propre. Nous, on est zone d'intégration d'argent propre. Voilà. Et bien, évidemment, la difficulté, c'est de remonter toute la filière et de dire, monsieur, votre argent provient ou de fraude fiscale majeure ou de crimes organisés ou de trafic locaux, etc. C'est toute la difficulté. Mais ce n'est pas asséché. L'argent tourne. Alors, on nous pose souvent la question, à combien évaluez-vous le blanchiment? On en est bien incapable, parce que ça supposerait d'évaluer le chiffre noir de l'indélinquance, le chiffre noir de l'économie noire, etc. Bon. Mais ça tourne, ça tourne.
Oui. Dernière intervention, deux secondes. On estime actuellement à 20 000 milliards de dollars toutes les 24 heures les fonds qui circulent de par la terre entière avec les clics dans les souris d'ordinateur. Et combien vous estimez qu'il y a de capitaux placés et non placés? 20 000 milliards. Et combien vous estimez d'argent sale là-dedans?
Alors, c'est ce que je disais, on nous demande souvent d'évaluer le blanchiment. Par définition, on a répondu à nos propres autorités nationales que ça supposait pour le faire une équipe internationale, pluridisciplinaire. Voilà, moi je suis incapable de répondre à votre question pour plusieurs raisons. À Tracfin, nous ne voyons que ce qu'on nous envoie. Et par ailleurs, il y a tellement de choses, par définition, qu'on ne mesure pas, que ce soit l'économie, pas l'économie parallèle, sans même parler d'économie totalement illégale, tout ce qui n'est pas déclaré purement fiscalement. Et tout le crime, on est incapable de mesurer ça. Enfin, en tout cas, moi, je ne peux pas donner de chiffres là-dessus sans dire une
c'est
énorme...
C'est très, très, très complexe. Hein, c'est vrai. Y a-t-il une dernière question, là, avant de...
Oui, bonjour. Je voudrais revenir sur la cartographie de ce qu'est la cybercriminalité. On a parlé de cybercriminalité. Moi, je m'intéresse à la frontière entre cybercriminalité et cybercitoyen, on va dire. Je fais référence à une population de, je ne sais pas comment les qualifier, de gens qui revendiquent une certaine démocratie ou liberté d'opinion sur Internet, qui ont commencé leurs actions contre l'église de Scientologie, qui ont continué avec du déni de service auprès de cette même église de Scientologie, puis auprès des sites gouvernementaux tunisiens pour aider à la révolution tunisienne. Même chose au niveau du gouvernement égyptien. Ils sont actuellement en train de faire des livraisons entre guillemets de modems traditionnels auprès des Libyens pour aider la révolution libyenne. Comment est-ce qu'aujourd'hui on cartographie ces gens-là? Première question. Et deuxième question, qui est-ce qui en France les suit et voit un petit peu leur mouvance? Parce qu'il y a des dérives dans ce mouvement qu'on appelle les Anonymous.
Je vais faire une réponse assez simple. Le travail, y compris de la justice et des services qui sont chargés de la sécurité dans les démocraties, c'est de défendre les libertés, donc y compris la liberté d'expression. Et donc on ne fait pas de cartographie ou de suivi des gens qui s'expriment et qui diffusent de l'information, etc. En revanche, lorsqu'il y a des franchissements de lignes blanches et que certains parmi eux en viennent à empêcher le fonctionnement d'une banque pendant plusieurs jours ou à voler des données confidentielles au sein d'une entreprise, il y a des investigations qui sont menées, il y a des interpellations qui sont menées. La frontière, elle est du côté du droit. Après, je pense que l'essentiel de ceux qui suivent l'ensemble du phénomène, même si ça peut intéresser tout le monde, surtout les sociologues que ça doit intéresser. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir ceux qui, parmi ceux-là, soit en profitent, soit dérivent, pour commettre des infractions plus ou moins graves. Et il y a eu une interpellation en France dans le cadre des Anonymous, et encore un jeune. Donc voilà. Et il y a certainement des milliers de personnes qui ont participé aux échanges, aux débats, etc., dans le cadre de ce type de mouvement. Donc voilà, il faut bien faire la différence entre les différents types de participation au débat.
Merci beaucoup. Je pense que pour respecter un peu les créneaux horaires et vous permettre de faire une pause, on va en arrêter là. On va s'arrêter là et nous retrouver ensuite pour les dispositifs juridiques de lutte contre la cybercriminalité animés par Myriam Kenmer. Merci beaucoup.